À voix nue. Emmanuel Laurentin s'entretient avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Aujourd'hui, troisième volet, travail et technique.
Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, après avoir évoqué dans les deux émissions précédentes les idées et les hommes qui vous ont beaucoup influencé l'un et l'autre, et nous avons remarqué combien les noms de ces hommes étaient souvent les mêmes d'ailleurs, vous appartenez à cette génération d'historiens ou de philosophes historiens qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Venons-en peut-être à vos travaux respectifs. Lorsque on lit les premiers ouvrages que vous avez publiés l'un et l'autre dans les années, fin des années 50, vous, Jacques Le Goff, c'était marchand et banquier, c'était en 1956, si je me souviens bien. Et vous, Jean-Pierre Vernant, c'était Les origines de la pensée grecque, c'est le premier peut-être, je ne sais pas, comme ouvrage, c'est en 1962, donc c'est à peu près concomitant. On voit dans ces deux ouvrages les germes peut-être, sans faire de téléologie et sans partir du présent pour retourner sur le passé, les germes de votre travail futur que vous avez développé l'un et l'autre pendant les 40 années qui ont suivi. Comment expliqueriez-vous cela l'un et l'autre? C'est-à-dire que dans un ouvrage d'origine, comme Marchand et banquier, Jacques Le Goff, vous évoquez déjà des thèmes qui seront les vôtres plus tard. Le thème, évidemment, du travail, et nous y viendrons tout à l'heure, mais également le thème du rapport entre une société et les structures qui l'entourent. Et vous, évidemment, Jean-Pierre Vernant, dans les origines de la pensée grecque, vous évoquez déjà ce grand changement, ce grand chambardement qui a fait naître, justement, la polis, la cité grecque, au 5e siècle. Alors, je ne sais pas, Jacques Le Goff, d'abord, comment expliquez-vous justement cette contraction des thèmes que vous développerez ensuite dans les premiers ouvrages?
Vous savez, on a souvent l'illusion après coup qu'on a fait une œuvre programmée dès le départ, qu'on a suivi son programme avec une cohérence extraordinaire. Je ne me dissimule pas le fait que il y a eu, comme dans tous les faits historiques, si j'ose dire, des hasards, et en particulier des commandes. Par exemple, Marchand et banquier est venu d'un cours que j'ai eu à faire sur un sujet que je n'avais pas choisi à mes étudiants de l'Université de Lille où j'étais assistant, et les intellectuels au Moyen-Âge qui ont immédiatement suivi en 57 sont une commande d'un nouveau directeur d'une nouvelle collection aux éditions du Seuil. Mais j'ai appliqué, si je peux dire, dans ces deux petits essais, des réflexions qui sont demeurées par la suite essentielles pour ma réflexion d'historien. D'abord, si j'ose dire, le primat des groupes sociaux. Marchands et banquiers, c'est, si j'ose dire, évident, dans la mesure où c'est un groupe qui se donnait lui-même comme un groupe constitué. Intellectuel, ça c'était plutôt le fruit de ma réflexion, et j'ai appliqué ce terme qui était un anachronisme, habituellement péché majeur de l'historien, dont on doit se garder. J'estime qu'il y a des anachronismes créateurs.
Éclairants, au moins.
Éclairants, voilà. Et c'est là que déjà un lien très précis avec le présent s'instituait. Ce sont les intellectuels du présent qui m'ont fait penser aux intellectuels du passé. Et je me suis ainsi aperçu, et c'est le présent qui nous l'a fait voir, qu'il y a eu, au XIIe et au XIIIe siècle, essentiellement, des hommes qui avaient un statut et une fonction comparables à ceux que nous appelons intellectuels, et en particulier qu'ils ne se contentaient pas d'être des savants, des chercheurs, des penseurs, mais qui en général étaient aussi des enseignants, et enfin qui jouaient un rôle d'éclaireur dans la société. Et par conséquent, j'ai écrit ce petit livre, j'ai appliqué ce terme à ces penseurs enseignants du Moyen-Âge, qui a été bien reçu. Mais en même temps, je m'intéressais, bon, je partais, si j'ose dire, de la notion fondamentale que je devais, en particulier, que j'aime essentiellement à Fernand Braudel, la longue durée, dont on avait parlé. Mais j'estimais que la tâche de l'historien, c'était, à l'intérieur de cette longue durée, de repérer et d'expliquer les changements, le mouvement. Et ces groupes sociaux, ceux qui m'intéressaient étaient ceux qui étaient les acteurs du changement. Or, marchands et banquiers d'une part et intellectuels d'autre part ont été de grands acteurs du changement au Moyen-Âge. Et ce qu'il y avait tout à fait d'étonnant, si j'ose dire, qui m'a confirmé, qui m'a justifié dans ma démarche, c'est que l'intégration dans le monde de leur temps et dans les façons de penser de leur temps s'est opérée, c'est curieux, de la même façon. Parce que, aux marchands d'un côté, aux intellectuels de l'autre, la société traditionnelle et, si on peut dire, les pouvoirs établis reprochaient la même chose. Les marchands étaient accusés de vendre le temps qui n'appartient qu'à Dieu, et les intellectuels qui, au XIIe siècle, se faisaient payer par les étudiants, étaient accusés de vendre la science qui n'appartient qu'à Dieu. Et alors, comment ont-ils été justifiés? Comment ont-ils été intégrés? Eh bien, c'est parce qu'ils se donnaient du mal, c'est parce qu'ils travaillaient. Et alors, j'ai vu apparaître ce mouvement, je crois, très important, qui était une justification du travail, et cette diffusion de l'idée de travail dans des milieux où ce n'était pas évident. Que le marchand travaille, c'était pas évident, et que l'intellectuel, lui aussi, travaille, ce qui a fait apparaître chez moi la notion de travailleur intellectuel qui n'a été intronisé dans l'histoire que plus tard, mais qui, je crois, est apparu au Moyen-Âge.
Alors, il est intéressant de voir, effectivement, que cette question du travail vous a également intéressé vous-même, travaillé, pourrait-on dire, Jean-Pierre Vernant. Peut-être pas à la même époque, peut-être pas simultanément, mais assez rapidement aussi, vous allez entreprendre un chantier sur cette question du travail dans la Grèce antique.
Oui, oui. Alors, vous disiez les origines de la pensée grecque, c'est une commande aussi, voilà le hasard qui intervient. C'était Dumézil qui m'a demandé de faire ce petit bouquin dans la collection Mythes et religions aux presses universitaires de France, et c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors, rapport passé-présent, j'ai fait ce livre qui en effet contient d'une certaine façon ce que je vais faire plus tard, puisque le problème c'est comment est-ce que la cité s'est constituée et pourquoi il y a eu cette invention de l'assemblée, du débat public et contradictoire, de l'idée que tous les citoyens sont des semblables, des égaux. Essayer de montrer que c'est pas seulement sur le plan politique, que c'est lié, il n'y a pas de causalité, que c'est lié à d'autres changements, et en particulier aux formes nouvelles de rationalité qui s'expriment dans les philosophies. Bien. Mais je fais ça, et en même temps, quand je fais ça, j'ai une arrière-pensée dans la tête. Ce que, à cette époque-là, je suis en bisbille avec le Parti communiste, donc je suis encore membre, officiellement. Et ce livre, il est essentiellement dirigé contre le dogmaniste PC, contre le système social que le PC a institué. Ça veut être la démonstration, je l'ai écrit à cette époque même, la démonstration qu'il n'y a pas de pensée rationnelle, qu'il n'y a pas de conception scientifique de la société et de l'avenir s'il n'y a pas débat public et contradictoire. Et que tout groupe humain, même qui prétend avoir la science infuse, qui refuse d'aborder certaines questions par un débat contradictoire, il est essentiellement religieux.
Ça veut dire qu'il y a toujours, dans votre travail, mais Jacques Le Goff y reviendra sûrement tout à l'heure pour le sien, un aller-retour entre votre sujet d'étude et vous-même en tant que citoyen du XXe siècle.
Bien sûr, on pose à la période qu'on examine les questions que le présent vous pose. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire des événements historiques. Chaque période pose un regard qui est différent parce que l'horizon de réflexion s'est modifié. Voilà. Alors le travail, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est comment il n'y a pas, et d'une certaine façon, il ne pouvait pas y avoir une conception du travail positive en Grèce ancienne. Comment ? Il n'y a même pas l'idée du travail en général. Il y a des métiers, et ce qui fait l'unité de la cité, c'est ce qui n'est pas fonction économique, ce qui n'est pas travail. L'agriculture est une chose, les métiers en sont une autre, et dans le travail artisanal, ça n'est pas l'artisan qui sait ce qu'il fait, c'est le type qui va... Le cordonnier ne sait pas ce que c'est qu'une chaussure.
C'est le commanditaire.
Celui qui sait, c'est seulement celui pour qui la chaussure est faite. C'est-à-dire que parmi les causes, la cause productive, c'est l'artisan, mais ce qui compte, c'est la cause formelle ou finale, c'est-à-dire le soulier tel que il va répondre à un besoin que connaît seulement l'usager. Donc on a un système, je montre qu'en réalité, le travail, il n'y a pas de travail.
Et que le travail n'est pas un mode de distinction à l'intérieur de la société, société
grecque. Bien entendu que non, le travail, il n'y a pas de travail. Le mot travail n'existe pas. Il y a ponos, qui veut dire l'effort pénible, mais voilà. Mais on peut montrer à quel point dans ce système de pensée et dans ce système de vie collective, celui qui travaille d'une certaine façon est marginalisé et exclu du centre de ce qui est la collectivité, c'est-à-dire la vie politique.
Jacques Leboeuf. Il est marginalisé, ou pire, le travail, c'est le travail de l'esclave.
En partie, mais même, il y a les artisans, il y a beaucoup d'hommes libres qui sont des artisans. Mais finalement, comme ils le disent tous, l'artisan, quand il reste dans le cadre de son métier, se fait esclave de l'usager pour
Absolument.
Lequel il crée le produit.
Absolument.
Autrement dit, le travail est une servitude, ouais, et non pas une activité productrice.
Je crois que c'est un des grands changements du Moyen-Âge, ouais, mais qui a ses limites. Parce que le Moyen-Âge part d'une conception qui a pour origine non pas la Grèce, le monde antique est une des grandes origines de la civilisation médiévale, mais l'autre origine capitale qui est la Bible. Et comment se présente le travail dans la Bible ? Le travail, c'est le châtiment. Le péché originel, Adam et Ève chassés du paradis terrestre, ont été condamnés au travail, y compris Ève, parce que la condamnation d'Ève qui est d'enfanter dans la douleur, ouais, c'est du travail. Et vous savez, moi j'ai encore vu, dans ma jeunesse, dans certains hôpitaux, la salle d'accouchement qui était appelée salle de travail.
Bien sûr.
Alors, comment s'est fait le changement ? Le changement s'est fait, me semble-t-il, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans diverses études, d'abord parce que la société médiévale a éprouver le besoin, l'intérêt, pour ne pas dire le plaisir, de créer quelque chose en travaillant. Le fait que le travail pouvait être créateur. Et deux, je crois, événements spéciaux ont donné un contenu et un accélérateur à ce changement. D'une part, c'est l'idée que, qui datait aussi de la Bible, mais qui avait été, nous savons que les grands ouvrages ont des périodes de léthargie, des périodes de réveil, qui est redevenue très puissante au XIIe siècle, que Dieu avait fait l'homme à son image. Alors, il fallait essayer de trouver un peu une explication à ce travail. Et le travail de l'homme a été désormais envisagé sur le modèle du travail de Dieu. Et la création est devenu un travail. Et évidemment, un travail éminemment noble. D'autre part, qui est-ce qui travaillait d'une façon exemplaire dans le haut Moyen-Âge? C'était les moines, puisqu'ils étaient inscrits dans leurs règles et ils pratiquaient effectivement le travail manuel. Mais en même temps, les moines étaient les personnages les plus sacrés, les plus admirés de la société. C'est-à-dire donc que leur pratique laborieuse, qui au départ était une forme de pénitence, oui, est devenue une activité, disons, au moins honorable. Ceci dit, il y a eu des freins à cette promotion et à cette réhabilitation du travail. Et le travail manuel est devenu
une sorte de pénitence,
oui,
lui aussi.
Une sorte de pénitence aussi. Au XIIIe siècle, un petit intellectuel, le poète Rudebeuf, qui est passé par l'université de Paris, déclare avec force « Je ne suis ouvrier des mains ». Donc, il y a là une réticence qui existe encore dans nos sociétés. Donc, vous le voyez, cette idée du travail, qui je crois est fondamentale dans une société, parce que la place qui est accordée ou qui n'est pas accordée au travail est essentielle pour la formation de la société. Et puis, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Vernant, parce que c'est quelque chose qu'il a révélé dans ses études. Proche du travail, il y a le problème de l'habileté technique. Et ça, l'habileté technique, c'est un domaine qui a longtemps... Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas encore le cas dans nos sociétés, plus ou moins sacralisé, si j'ose dire. Et sur l'habileté technique dans la Grèce ancienne, tu as écrit des choses épatantes.
Jean-Pierre Vernant.
Oui, le travail des artisans, tout ça, c'est dévalorisé. Mais, en même temps qu'il y a, je crois quand même pour l'essentiel, dans la culture grecque, une valorisation... toute espèce d'activité intellectuelle qui est orientée vers ce qui est fixe et immuable. L'astronomie, les mathématiques, avec l'idée que ce qui se passe ici-bas, dans notre monde terrestre, ne peut pas être objet d'un savoir véritable. Ce savoir d'opinion, pourquoi? Parce que c'est, comme disait Coiré, le monde de l'à-peu-près. Il n'y a pas de physique, il ne peut pas y en avoir. Il n'y a pas de mensuration de rien. Ça veut dire que celui qui a un four dans lequel il fait cuire un pot, il ne sait pas quelle température il fait là-dedans, il a des pratiques, il sait ce qu'il faut mettre comme bois, qui chauffe plus ou moins, mais il y a une espèce de quoi? Ce qu'ils appellent l'expérience, empeia, qui n'est pas l'expérience physique mathématisée, mais qui est le flair. Il va donc y avoir ce que les hellénistes, je crois, avaient négligé, avant que Détienne et moi on s'en occupe un peu plus. L'idée qu'il existe dans la vie humaine des domaines, la politique, savoir ce qui va se passer, les décisions, la flotte, le bateau, savoir quels sont les vents favorables, la guerre, et puis tout le monde technique qui relève d'autre chose que ce que les Grecs appellent épistémé, la science véritable, déduction logique, irréfutable, la nécessité logique, un monde fluent, mouvant, où il faut avoir le pif, il faut deviner, il faut savoir... Comme métis, le mot est justement celui qui désigne cette forme d'intelligence, mais il désigne aussi une divinité, celle que Zeus doit avaler pour tout savoir, et elle est une divinité qui prend toutes les formes. Elle peut se faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que devant un monde fluent, un monde où il n'y a pas de règles, où on ne peut pas appliquer le compas et la mesure, il faut se faire plus fluide, plus ambigu, plus souple que ce à quoi on est affronté. Et donc, l'activité technique dans une série de métiers et de savoir-faire politique, juridique, militaire relèvent de ce type d'intelligence. Sacraliser, je n'irai pas jusque-là. Pourquoi ? Le type du penseur améthyste, c'est le sophiste. Oui. Le sophiste qui peut prendre toutes les formes. Vous lui attrapez un bras, c'est l'autre qui sort. Il est toujours en train de se métamorphoser comme la divinité. Mais cette forme d'intelligence pratique, d'astuce, faite aussi d'ailleurs de quelquefois de mensonges. Ulysse est l'homme améthyste, parce qu'il est un, et il se tire d'affaire dans les situations les plus désespérées. Il renverse le faible en fort. Cette forme d'intelligence, elle correspond chez les divinités, à des divinités précises. Métis elle-même, Athéna, Héphaïstos, sont des divinités qui incarnent d'une certaine façon la métis.
Oui, bon, j'ai employé le mot sacralisé, qu'effectivement tu as eu raison de corriger pour la Grèce ancienne, parce que c'est ce qui apparaît, ce qui affleure au Moyen-Âge. En particulier, je pense, parce que c'est plutôt un héritage païen, c'est un héritage des cultures et des sociétés nordiques et germaniques, et qui s'est concrétisé, qui s'est incarné dans un personnage qui est le forgeron. Et le forgeron peut devenir, on le voit, ça aboutit dans les grands poèmes épiques du Moyen-Âge et jusque chez Wagner, un personnage sacré, un personnage sacralisé, et ça a laissé une trace très intéressante à laquelle on ne pense pas toujours dans l'onomastique. Parce que quand est né, au XIIe et XIIIe siècle surtout, le nom propre. Le nom propre, on est allé le chercher dans divers domaines. Il y a eu le domaine de la couleur des cheveux, le brun, le roux, etc. Et il y a eu le domaine des métiers. Et en particulier, les familles qui avaient un forgeron parmi elles, ce personnage que l'on retrouvait aussi dans la masse paysanne, car c'était l'artisan par excellence des villages et de la masse rurale, eh bien, c'est le mot qui a été choisi. Donc, l'extraordinaire nombre dans les langues européennes du terme désignant le forgeron. Ce terme est plus ou moins unifié en allemand et en anglais, Smith et Schmidt. En français ou en italien, il est réparti entre plusieurs formes du même mot. C'est Faber. Alors, c'est Favre, les Favres, Fabre, Lefèvre, etc. Et je me permets de donner un exemple qui est celui de la langue bretonne.
Le Goff.
Ou le forgeron. c'est le Goff, et ce n'est pas pour me parer d'un titre sacralisé, mais pour indiquer, je dirais, les caprices de l'onomastique.
Merci.
C'était À Voix Nue. Emmanuel Laurentin s'entretenait avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Équipe de réalisation, Jean-Marie Charon, Pierrette Perronneau. Demain, tragédie, liturgie.